il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. C'est ce qu'écrivait saint Paul aux Philippiens, et c'est cela que nous avons entendu tout à l'heure dans la deuxième lecture. Pourtant, Jésus avait été acclamé comme le Messie de Dieu à son entrée dans Jérusalem. Nous l'avons célébré tout à l'heure. Et il s'était même permis de réquisitionner un petit âne. Le Seigneur en a besoin. Une foule de gens avait étendu leur manteau à son passage et il l'avait acclamé « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il l'avait acclamé comme le Messie d'Israël. Alors, comment se fait-il que, quelques jours après, Jésus ait été traité comme le dernier des blasphémateurs, comme un bandit? Si Jésus avait revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, il ne serait pas entré dans Jérusalem. Il savait bien que les autorités religieuses de la ville avaient décidé de le faire mettre à mort. Pourtant, il est entré dans Jérusalem. 8 siècles plus tôt, le prophète Élie s'était enfui devant la reine Jézabel après qu'il eut tué les prophètes de Baal dans son zèle pour Dieu. 12 siècles plus tôt, c'était Moïse qui s'était enfui de la cour de Pharaon après avoir tué un Égyptien qui molestait un Hébreu. C'étaient des hommes de Dieu qui voulaient la justice, mais au moment de l'adversité, ils s'étaient enfuis. 6 siècles plus tard, un autre prophète, Mohammed, le prophète de l'islam, verra sa prédication sur l'unité de Dieu violemment rejetée dans la ville de la Mecque. Et il s'enfuira à la ville voisine de Médine avec ses disciples, et là il deviendra un chef politique et militaire. Voilà donc tous ces prophètes qui ont revendiqué leurs droits d'hommes envoyés par Dieu. Ils ont revendiqué ce droit pour sauver leur vie de ceux qui ne suivaient pas les voies de Dieu, de ceux qui n'écoutaient pas leurs enseignements. Jésus, lui, n'a pas revendiqué son droit, encore plus grand pourtant, son droit d'être traité comme fils de Dieu. Jésus n'a pas eu peur ni de l'humiliation ni de la mort la plus infamante. Pour lui, elles n'ont pas constitué un obstacle à sa prédication ni au message qu'il voulait faire passer. Bien au contraire, Jésus a prêché de la manière la plus éloquente en étant humilié par sa condamnation et en mourant sur la croix. Tous les ans, nous venons écouter avec attention, avec recueillement, le récit de la Passion, parce que c'est vraiment l'Évangile en acte et en vérité. Jésus a vécu de la manière la plus intense en étant conduit à la mort de la croix. La Passion de Jésus est toujours quelque chose de radicalement nouveau dans notre monde qui a peur de la mort, qui fuit l'humiliation et la mort. Laissons-nous toujours surprendre par cette nouveauté. Cet événement s'est produit il y a 2000 ans, mais il est toujours nouveau. Notre époque, aujourd'hui, déploie toutes sortes d'artifices pour occulter la souffrance et la mort, et même en provoquant la mort, sans que cela ait l'air d'une mise à mort quand survient le mal de vivre. Mais cela ne résout rien. En voulant ainsi supprimer la souffrance et la mort, de nouvelles souffrances, de nouvelles morts apparaissent, et souvent pires que les premières. Il y a dans nos sociétés le mal de vivre, le manque de sens à la vie, avec toutes les maladies psychiques et les crises de société que cela entraîne. Il y a la crise économique interminable dont on ne voit pas le bout, le chômage. Il y a toutes ces familles disloquées qui ne savent pas comment faire pour se retrouver. Il y a les avortements, les euthanasies, les suicides, les attentats terroristes ou les homicides commis par des personnes déséquilibrées. Et dans tant de pays du monde, des guerres interminables, des quantités de personnes déplacées, de l'insécurité quotidienne, de nouvelles épidémies, des catastrophes écologiques. Puis il y a la traite des personnes humaines par millions, surtout des femmes et des enfants, exploités, abusés. Et pourtant, les efforts, les mesures pour essayer de résoudre ces problèmes ne manquent pas. Devant tout cela, la passion de Jésus nous dit quelque chose de radicalement nouveau, si nous savons l'écouter. Pour vivre pleinement, nous n'avons pas besoin de fuir la souffrance et la mort. Il ne s'agit certes pas non plus de les rechercher, ni de nous y complaire. Quand nous avons possibilité d'en sortir, il importe que nous prenions les moyens. Mais cela, Jésus ne l'a pas fait, il n'a pas cherché la souffrance. Le but de Jésus n'a pas été de mourir sur la croix, mais d'aimer jusqu'au bout, jusque dans sa mise à mort. Quel esclavage que de vivre sans cesse dans la peur de la souffrance et de la mort. Cela nous amène à renier nos valeurs, cela nous amène à voler, à mentir, à frauder, à tromper, à être violent et finalement à tuer lorsque nous avons peur de la souffrance et de la mort. Quelle liberté que de vivre, que d'aimer sans avoir peur de souffrir ni de mourir. Quelle liberté que de ne pas être obsédé par nos prétendus droits au bien-être, à la tranquillité. Si Jésus a jugé bon de ne pas revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, allons-nous sans cesse revendiquer en nous-mêmes nos droits de vivre sur cette terre comme si nous étions des dieux? La lutte pour la justice et le respect des personnes nous libère. La revendication que tout nous serait dû nous aliène. Regardons tous les personnages du récit de la Passion que nous venons d'entendre. Qui est le plus libre entre tous? Est-ce les disciples qui voulaient donner leur vie pour Jésus et qui se sont finalement enfuis au moment de son arrestation? Pierre qui pensait pouvoir donner sa vie pour lui et qui l'a renié? Est-ce les grands prêtres qui ont fait condamner Jésus dans un simulacre de procès au mépris de la loi de Moïse? Ils étaient censés représenter en multipliant les faux témoignages contre Jésus. Est-ce Pilate qui voulait relâcher Jésus en voyant bien son innocence, mais qui finalement a cédé aux pressions des grands prêtres? N'est-ce pas Jésus qui est le plus libre, lui qui s'offre volontairement au Père et aux hommes par amour? Jésus est libre et il nous montre le chemin de la véritable liberté, de la véritable vie, en choisissant de vivre et d'aimer jusque dans son humiliation extrême et dans sa mort.